Alors bonjour à tous les deux. Première question assez simple. Peut-être certains de nos lecteurs, auditeurs ne vous connaissent pas. Est-ce qu'on peut présenter le groupe en quelques mots ?
Le groupe Miras est composé de 5 personnes. Il y en a une sixième. Donc c'est notre cher producteur Kevin Clotfer. On peut dire qu'il est le sixième membre du groupe.
Allez, on est six. Voilà.
Ouais, on est six.
Voilà. Au total. On l'a pas dit encore, mais il y a un ghost.
Voilà, exactement.
C'est bon. Donc le groupe, on a démarré en 2001 en tant que groupe de reprises. On a joué pas mal pendant 4 ans, des reprises de Symphonix, Dream Theater et tout. Et après, c'était en 2006 quand on a ouvert pour Adagio et Robert Plant. Et là, on a croisé Kevin qu'il était intéressé et il nous a proposé de passer à une étape, à l'étape supérieure. Voilà, donc. D'accord. Et juste après, on a fait le premier album, Hope, c'est sorti chez Brennus. Et après, on a enchaîné avec Desert Call et Tales. Et là, on est sur Legacy, toujours avec Kevin Clotfer.
D'accord, on va y revenir, il y a une question qui est liée à ça.
Voilà.
Là, je vais faire appel un peu à votre esprit de synthèse. Si on prend toute la période Tales, c'est-à-dire la composition, l'enregistrement, les concerts, voilà, toute cette période-là, tout le chapitre, et qu'il y avait un souvenir en particulier qui émerge, ça serait lequel ? Sur toute cette période-là, dans 5, 6, 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui te restera ? Ou qu'est-ce qui vous restera ?
Je pense qu'il y aura t'auras une réponse par moi, une réponse par Elias, parce qu'on a chacun nos... Nos points de vue. Alors moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est toute cette période d'angoisse post-Tales, où on s'est dit, voilà, la musique de Miras change un petit peu au niveau de la direction, donc ça reste toujours du métal oriental, mais c'est une musique qui tend, enfin la musique de Miras tend un peu à simplifier au final, pour des raisons évidentes, pour des raisons qu'il fallait que les morceaux sonnent sur scène, etc. Et j'avais une grosse angoisse en me disant, est-ce que les fans de la première heure de Hope et de Desert Call vont suivre ? Voilà, donc il y a une période comme ça pendant 3-4 mois au lancement de Tales, parce que le lancement c'est pas fait de suite, c'est-à-dire il y a une certaine inertie au niveau de la propagation, si tu veux, de Tales et de la notoriété grandissante de Miras. Il y a eu une petite période de 4-5 mois où j'ai pu avoir énormément de stress sur le truc.
Une espèce de perte d'identité du groupe par l'évolution.
C'était pas une perte d'identité, c'était une modification de l'identité.
D'accord, voilà. Ok. Voilà, et donc, les semaines avançant ou la réponse du public arrivant, on se rassure.
On a été rassuré dès que la tournée avec Orphan Lana a commencé.
D'accord.
Là, on a pu vraiment voir la réaction du public et se dire, tiens, finalement, on n'a pas fait les mauvais choix.
Même si potentiellement, c'était la tournée idéale. C'était deux groupes emblématiques du mouvement, entre guillemets, qui se mettaient ensemble et qui proposaient un package qui était quand même très sympathique.
Le plateau était super ouais. Bien fait. Ouais.
Non, concernant cette période, je dirais pareil. Sauf que voilà, il y a eu aussi la révolution. Donc dans cette période-là, on a fait un mix, tout. C'est le seul souvenir pendant cette période, je dirais bien.
D'accord.
Et puis les photos promotionnelles de Tales qui ont été faites sur les toits de la Médina de Tunis pendant la révolution. C'est-à-dire que pendant qu'on était en train de faire les photos, il y avait les gens...
Il y a le monde qui tourne autour.
Oui, ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà, il y a les policiers, des bombes lacrymogènes, genre, et on prenait...
Est-ce que, a posteriori, d'une façon ou d'une autre, ces événements-là politiques dans le pays, en Tunisie, a pu marquer d'une façon ou d'une autre, je sais pas, peut-être durcir le ton sur certains trucs, ou ces deux mondes complètement étanches?
Tu veux dire, est-ce que les
événements politiques
la conjoncture politique a impacté la composition des morceaux?
Non, je dirais. Non,
pas au niveau des paroles, pas au niveau de la musique.
Juste pour vous dire, on n'est pas dans tout ce qui est politique.
Ça, voilà. Mais bon, après, en même temps, vous vivez aussi dans ce...
Oui, ça, c'est sûr. Ça va influencer un tout petit peu la composition, mais au niveau des paroles, non.
D'accord.
La composition, oui. Okay. Tout à fait.
Alors, j'ai lu la page Wikipédia du groupe. Alors, je voulais juste vérifier deux, trois éléments. Donc, d'après Wikipédia, et tu sembles confirmer, donc à ses débuts, le groupe faisait beaucoup de reprises, dont Symphonix. Je suppose que cette tournée, pour vous, c'est un peu un pied. C'est-à-dire que la tournée Dream Theater sera peut-être l'étape suivante, mais en tout cas, là, il y a un premier tour avec les mecs que vous jouiez il y a 10 ans, quoi. Sea of Lies et, voilà.
Ouais, ça fait plaisir. La première fois quand on a reçu, la demande pour faire le tour support avec Symphonix, franchement, on s'est dit, c'était un moment magique, voilà. Dès qu'on a lu l'email, c'était, on s'est dit, waouh, pour la première fois, on va tourner avec notre groupe, voilà, Fétiche.
Et le, il n'y avait pas une crainte, une inquiétude d'une comparaison ou, je sais pas, quand on rencontre des gens qu'on apprécie ou qui sont modèles, on peut être déçu aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de...
Déçu, non. Par contre, au niveau des chroniques, donc ils associent un tout petit peu notre style à Symfonix. Pour nous, c'est un honneur. Sachant que, voilà, quand on a démarré avec Hope, c'était normal. On venait tout juste de quitter les reprises. On a fait notre premier album, donc c'est normal que ça va sonner plus ou moins Symfonix. Mais après, avec le temps, on gagne une certaine maturité. Qu'on pourrait changer un tout petit peu le style, à avoir notre propre empreinte. Mais
c'est plutôt flatteur, parce que Symfonix, c'est un des points, c'est qu'ils sont très techniques, en étant mélodiques.
Tout à fait.
Quand on commence à comparer à ça, c'est comme si on dit un guitariste, voilà, bah, il a un jeu proche de Malmsteen, ce qui est le cas de Michael Romeo, ça veut dire qu'il atteint un niveau, sinon c'est une cadeau.
Certainement, Malek, quand il a commencé, il a pris les. Quand il a commencé à jouer de la guitare, donc il a commencé avec des vidéos de Michael Romeo et tout, donc c'est normal.
D'accord. Je sais pas s'il a appris sur le DVD qu'il avait sorti à l'époque.
Oui, mais c'est incroyable le DVD.
Un Dark Chapter, je sais plus comment il s'appelait, c'était assez particulier. Toujours d'après Wikipédia, vous annoncez dans la presse en septembre 2013 que vous espérez ce nouvel album, le quatrième, début 2014. Finalement, il faudra 2 ans de plus. Pourquoi il y a ce trou ? Pourquoi il y a... Est-ce que vous avez connu des difficultés ou des problématiques qui ont fait que vous êtes allé moins vite que prévu ?
Kevin, je pense.
Il y a eu pas mal de problématiques. Des problématiques liées à la direction musicale, une remise en question. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est quoi l'identité du groupe ? Comment on fait les chansons ? Est-ce que les chansons qu'on a composées sont vraiment bonnes ? Peut-être qu'il va falloir changer, etc. C'est-à-dire une remise en question perpétuelle. Mais je pense que c'est pas cette remise en question-là qui nous a vraiment freiné. Ce qui nous a freiné, c'est un événement tragique qui est arrivé, c'est-à-dire le décès du papa de Malek, qui était aussi manager du groupe à l'époque, et qui était plus que manager, qui était manager, qui était papa, qui était logisticien, qui faisait les deals avec nos disques, qui faisait absolument tout. Et en fait, si tu veux, on s'est retrouvé sans lui du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout restructurer, réapprendre à travailler, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous a pénalisé.
Professionnaliser, d'une façon ou d'une autre.
Exactement.
Sans forcément s'appuyer que sur la famille, les amis, c'est bien, mais dès qu'on monte à un certain niveau, il faut passer sur des structures pro.
On aurait été capable de passer sur des structures pro avec Armed, ouais. Qui était vraiment un mec génial. Ça nous a demandé de tout revoir.
Voilà. D'accord. Et c'est tout, la com, management, maison disque. Il était notre papa à tous.
D'accord. Il y a eu une remise en cause avec une nouvelle évolution ou réflexion sur où le groupe voulait aller pour la suite musicalement, artistiquement parlant.
Non, mais ça s'est fait de manière implicite. Son décès a fait qu'on a eu des choses à dire.
D'accord.
Et on a repris la composition après son décès parce qu'on avait un hommage à rendre. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard sur pourquoi l'album éponyme, etc. Mais effectivement, son décès est pour beaucoup sur la construction.
D'accord.
Des morceaux.
Et donc, ça a pris 6 ans au lieu de 4 ans ou 3 ans. Voilà. Mais là aussi, parce que vous vous êtes donné le temps de digérer, gérer l'urgence qui était de repositionner, de restructurer le groupe dans son environnement et ensuite se dire, bon, ok, on a restabilisé les choses, on peut encore retravailler sur l'artistique.
Il y a aussi, on a tourné pas mal de temps avec Tails. Mmh. Pendant 3 ans, on a fait presque de l'Inde jusqu'à Atlanta, aux States. Donc on a pas mal tourné avec Tails. Mmh. Et voilà, il fallait trouver un tout petit peu de temps avec l'événement qui vient se passer. Et du coup,
ça aussi, genre, je sais pas, les débuts du groupe, quand on commence à travailler, on professionnalise, on sort un premier disque. Finalement, vous avez un parcours... entre guillemets rapide et lent, c'est-à-dire vu du point de vue, ça allait par étapes, vous avez bossé, progressé, mais vu de l'extérieur, on voit tout d'un coup un groupe émerger. Alors je pense qu'en France, moi je l'ai vu émerger plutôt pour Tails. Avant, vous aviez sorti des choses, mais qui avaient été moins vues. Moi, en lisant la presse, j'avais moins été conscient. Et après, ça allait, on a l'impression, vu de l'extérieur, que ça allait extrêmement vite. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur ?
C'est allé très lentement de l'intérieur. Ouais. Ça, c'est toujours le problème et on est toujours frustré en tant que musicien. On se dit pourquoi on n'avance pas vite, pourquoi on n'est pas plus reconnu, pourquoi on fait pas plus de concerts, etc. Parce que tous les petits détails et la construction qui se fait au jour le jour prend énormément de temps. Mais on a conscience, en tout cas, Elias et moi avons parfaitement conscience que, vu de l'extérieur, c'est une montée relativement rapide pour un groupe dans le métal. Voilà. Après, de notre côté, c'est lent, ça demande de faire des concessions, ça demande énormément de travail tous les jours.
Alors, là aussi, je fais peut-être moi des comparaisons qui sont hasardeuses, et tu pourras juger parce que tu as vu les deux. Je trouve que c'est. Vu de l'extérieur, c'est un peu Adagio à l'inverse. Adagio s'est monté extrêmement fort très vite, deux premiers albums, David Redman, etc. Puis, après, j'en ai discuté avec Stéphane Fortet à l'époque aussi, interview, il y a eu un gros trou parce que problème chanteur, machin. Et depuis le truc, par contre, il y a eu peut-être une montée très rapide, et ensuite, il y a eu difficulté à poursuivre, pour X raisons liées au business. C'est peut-être l'inverse, en fait.
Il se passe l'inverse, c'est pas lié au business. Je pense que Adagio souffre d'un manque de positionnement sur le marché et Stéphane qui a du mal à se repositionner et savoir aujourd'hui ce qu'il faut faire.
Il se repositionne sur du solo, c'est vrai que son album qui est très sympa. À l'époque, il ne savait pas trop si l'album qui allait suivre c'était de l'Adagio ou pas. Je sais pas si c'est la réflexion avancée, mais on s'est dit que là le groupe avait tout en main et ça, il y a eu des difficultés. Et alors que, même si de mon point de vue c'est rapide, Mirat c'est allé quand même, vous avez construit petit à petit et vous allez sur des bases très solides, alors que Adagio, ça s'est un peu effondré comme un château de sable.
Tu as raison, mais après, ce marché du métal est très compliqué, est très difficile. Le marché de la musique est très difficile. Adagio s'est effondré parce qu'on n'avait pas les armes. Je dis pas qu'on a plus les armes avec Miras, mais on essaye de pas faire certaines erreurs stratégiques, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est sur des bases solides, mais la chose pourrait s'effondrer comme Adagio si on manquait de vigilance sur. Un instant de non-vigilance pourrait faire que la chose tombe à l'eau.
D'accord. Donc la difficulté, c'est quoi, comme tu disais? C'est positionner le groupe dans la tête des fans ou du public?
Le plus difficile, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut composer, pour commencer. C'est-à-dire que tu composes toujours avec tes tripes de manière naturelle, mais après tu prends du recul, tu dis est-ce que les gens vont apprécier, comment, etc. Donc tu as un positionnement musical, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui représente 90% du boulot d'un musicien finalement, c'est démarcher les maisons de disques, la stratégie, le marketing en ligne, etc. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se foirer? Quel type de marketing on peut faire sans être agressif, sans être considéré comme un groupe mainstream, on peut faire, etc. etc.
Surtout que maintenant c'est devenu beaucoup de do it yourself. Les maisons de disques font ce qu'elles peuvent, mais beaucoup moins qu'il fait une époque des années 80. Et donc c'est le groupe, il fait ou il fait pas, mais il se repose beaucoup plus sur lui.
Exactement. Les groupes aujourd'hui font tout. Si t'as pas dans le groupe quelqu'un qui est spécialiste de la vidéo, spécialiste du marketing, spécialiste du management, etc., au sein des musiciens, tu vas nulle part.
D'accord. Voilà.
Et du coup, chez nous, on a cette chance. On a Malek qui est guitariste, mais aussi qui fait toutes les vidéos du groupe. Ça nous permet d'avancer vite dans cette direction. On a Elias qui est clavieriste, mais aussi qui fait le management. Moi qui suis producteur, mais aussi qui compose, et aussi je suis fondateur d'une boîte de marketing, et donc du coup, j'amène toute mon expertise au niveau marketing internet. Donc on travaille en famille et on a plusieurs boulots. Voilà. Et tous les groupes n'ont pas cette chance-là d'avoir des gens qui savent faire.
Vous avez l'écosystème qui permet d'avancer.
Faire la pochette aussi, les paroles. Du coup,
avec. C'est une entreprise familiale, quoi. Enfin,
complètement.
Ça, ouais, la différence entre nous et d'autres groupes, c'est nous, on évolue en tant que famille.
Voilà. Donc, reste très pro avec le niveau de procédure nécessaire, mais en interne.
Et c'est évolué, en fait. Si par exemple, vous allez dire qu'on est en train de monter doucement, mais. C'était voulu, on s'est dit, puisqu'on est encore jeune, donc on a tout le temps pour grimper les échelons.
De manière solide, oui, sans se brûler les ailes, sans sauter des étapes.
C'est ça.
D'accord. Donc si on revient à Legacy et sa conception, son accouchement, c'était à peu près la même équipe que son précédent, enfin, même quasiment.
Oui.
Production, le même studio à Nanterre, Bograin fait le mastering, je crois, et puis
une partie du mix, c'est le mastering.
Ouais, voilà, et Nordstrom s'en occupe aussi pour autre chose.
Alors Nordstrom, c'était sur Tales.
À part donc Frédéric, Nordstrom, c'est à peu près la même équipe. Continuité logique, il y a pas un moment aussi, on veut, peut-être pour des problématiques aussi d'organisation financière, et puis donc l'écosystème, mais ça semblait logique de poursuivre dans un même environnement.
Pourquoi changer une carte gagnante?
Exactement. Voilà. Beaucoup de gens te diraient, il faut amener un petit peu d'air frais, changeons le truc, on va évoluer, machin. Aujourd'hui, en 2016, le métier est tellement difficile qu'on peut pas faire ça. Ça, c'est une connerie. On a trouvé une formule, on bosse ensemble, on continue. On continue. Et c'est parce que changer les équipes maintenant, ça serait une catastrophe pour le groupe.
On évolue ensemble, c'est ça le plus important.
Même, d'accord. Donc, et trouver entre guillemets, c'est New 80 financièrement pour avoir un nom d'un producteur Famous, je sais pas, Peter Ted Grain, ça n'a aucun intérêt.
Ça, ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Parce que le producteur produira le disque, c'est tout. il y a le reste qui est le, ouais, plus, qui est le plus important. Okay,
donc il ne fera pas avec son âme.
Voilà. Oui, et puis ça risque de mettre en danger tout le reste parce qu'il n'y a plus de budget ou plus de autres pour tout le reste.
Mais surtout qu'il ne va pas investir. Oui. C'est-à-dire que moi, en tant que producteur, j'investis. C'est-à-dire j'ai un rôle de producteur exécutif, mais de producteur tout court. C'est-à-dire que j'investis, j'ai investi dans la tournée, j'ai investi dans le buy-on, dans le vidéoclip, etc. Donc,
Nanterre, c'est ton studio ?
Ouais.
D'accord. D'accord, donc je comprends la logique familiale. Donc là aussi au niveau business, a priori, nouvelle, toujours progression logique entre guillemets, donc signature avec V-Records, alors 13 bis sont peut-être morts et enterrés, je sais plus. Enfin,
13 bis sont en dépôt de bilan,
voilà,
effectivement.
Okay. Mais en tout cas, bon, même si à l'époque restait, c'est quand même un niveau au-dessus, c'est un cran au-dessus, ne serait-ce qu'en, je pense que vous, en distri, etc. Pour les autres continents, j'ai vu qu'a priori c'est des licences, enfin, où vous êtes en contrat
alors,
avec d'autres.
Pour le rôle, ce sera Edel Ear Music. Donc Edel, c'est 20% du marché allemand.
Mmh. C'est ça. Oui, Yarmusic, oui,
c'est une maison disque qui est stable, qui voit les bons résultats, qui voit le nombre de vues sur YouTube du dernier clip qui a été assez exponentiel, qui sont prêts à investir sur nous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a signé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, avec eux, on a eu un petit peu de mal, mais ça a été compliqué, mais on a pu le faire. Chez King Record pour le Japon, et chez Nightmare Record pour les États-Unis, voilà, et chez Groove Master pour le Moyen-Orient.
Moyen-Orient.
Voilà, donc on a pu monter ça progressivement et être distribué dans tous les
pays. Donc à chaque fois, vous licenciez à ce que vous pensez être le bon acteur local
Tant qu'il n'y aura pas une énorme major qui te dira de toute façon, moi je prends le monde ou rien.
Oui, si Nuclear Blast prend tout, bon, ok, d'accord, mais.
À voir, après, ouais. ça dépend comment ils travaillent le groupe en plus.
Bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est de. Mais enfin, en tout cas, pour le marché français, V-Record, c'est un pas supplémentaire pour vous.
C'est la maison de disque pour le métal en France, il n'y a pas mieux. Donc,
Puisqu'on se connaît, et voilà.
Et on se connaît, parce que Mehdi de V-Record travaillait aussi chez 13 bis.
D'accord, ok, ouais. Donc. C'est un petit monde. Voilà. Et ça s'est fait, c'est eux qui sont venus vers vous, c'est vous qui avez démarché.
Naturellement, en fait,
ça s'est fait
naturellement.
D'accord. Et lui se renseignait savoir si comment vous bossiez, vous alliez sortir un nouveau
truc.
Oui,
il est venu plusieurs
très voilà. Bien. En fait, il a su l'évolution, il a vu.
Je lui ai montré le clip, il a dit top, bon allez, on bosse ensemble. Machin, voilà, ça s'est fait très 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 rapidement.
D'accord. Alors justement, en parlant du clip, merci pour ce lien, Believer. Donc clip ultra chiadé, super pro. Alors, en regardant le nom des techniciens, ça ressemble en Serbie ou en Croatie, enfin, tous les mecs sont hitch.
Ouais, c'est des Serbes, ouais.
Alors, du coup, ça a été tourné, dans quelles conditions ça a été fait, et il y a les deux écoles. Soit on se dit que les clips, ça sert plus à rien, parce que ça fournit un peu YouTube, donc ça permet d'avoir, mais il n'y a plus VH1, il n'y a plus MTV, ou MCM, ou bref, ou à 23h du soir, enfin, 23h. Comment encore, est-ce que ça vaut encore le coup, je suppose, oui, d'investir aussi lourdement dans un clip? En quoi ça sert le groupe en termes de promo?
En fait, ce qu'on s'est dit avant de tourner le clip, on s'est dit, si on sait jamais, on va faire un clip, soit on le fait, on va tourner un clip qui va faire rêver tout le monde, soit on fait rien. Donc on partait sur cette idée. Après, voilà, donc on a en parlé avec Kevin, moi et lui. Il faut avoir un scénario qui envoie, mais aussi on voulait avoir un mini-film. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, le clip lui-même, c'est, on dirait un mini-film.
Oui, absolument. On est parti. Il est chiadé à un niveau impressionnant.
On est parti sur ça, on voulait envoyer. Donc, c'est genre, on voulait ramener quelque chose de nouveau dans les clips de métal. On voulait faire quelque chose qui n'a pas été fait.
Après, est-ce que ça a une utilité? Tout dépend. Sur ce clip-là, il y a une utilité. Sur d'autres, peut-être pas. Un clip, on est d'accord que c'est une vitrine promotionnelle. Une vitrine promotionnelle, ça se paye. Si tu veux toucher 1 million de personnes pour que tu essayes 1 million de personnes, parce que c'est ce qu'a fait le clip en 3 semaines.
Joli, ouais.
Pour les gens qui sont familiers avec les campagnes AdWords, campagnes Google, campagnes Facebook, etc., toucher 1 million de personnes et fédérer 1 million de personnes, ça va te coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mmh. Si tu te dis, j'ai un produit suffisamment bon qui va s'auto-promouvoir lui-même par un facteur viral assez important, dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de payer ta viralité. Et c'est ce qui s'est passé sur ce clip-là. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de vues, on n'a pas payé 5 millions de vues. C'est du trafic naturel. Donc du coup, oui, c'est une vitrine pour nous et ça a fonctionné. Et on aurait voulu faire la promotion par un autre canal que le clip, on n'aurait pas réussi à faire aussi bien.
Mais c'est le bouche-à-oreille, parce qu'on suppose que d'abord, c'est les fans du groupe qui sont allés voir, qui ont peut-être dit, tiens, va voir sur des mecs un peu sur le public plus large. 1 million, on peut penser, ça sort même du public métal.
C'est pas du tout le bouche-à-oreille. Ce qui se passe, c'est que tu as des algorithmes sur YouTube. Quand tu fais un certain nombre de vues par jour, ils vont calculer ce qui s'appelle la vitesse, la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse instantanée. Et en fonction de la vitesse instantanée, tu as des mécaniques qui se mettent en place et qui vont pousser le clip.
C'est eux qui mettent en avant ce qui
exactement qui a sur, la, buzz, sur la population, parce que eux, le but de YouTube, c'est d'avoir le plus de vues possible. Plus de vues égale plus de publicité égale plus d'argent. Donc leurs algos vont pousser ce qui fait de la viralité. Donc l'algo a vu qu'il y avait de la viralité, a poussé la viralité, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il n'y a pas de communauté qui a parlé avec si, etc. Est-ce que tu as vu ce clip-là ? C'est uniquement des algorithmes, en tout cas côté Google. Et côté Facebook, c'est un petit peu différent. C'est les partages, et effectivement. Et là ça marche.
C'est connaître les mécanismes du système et essayer de l'utiliser à son propre profit.
Oui, non, mais c'est comme, de toute façon, c'est comme aujourd'hui, il n'y a que comme ça que ça fonctionne.
Et alors, donc plus en lien, voilà, comment ça s'est fait le clip ? Pardon. Où l'avez-vous tourné ? Serbie, Croatie,
Serbie,
d'accord. Donc, c'est vous qui avez, enfin, il y a eu donc scénario d'un script, enfin, rédaction d'un script. Voilà.
Oui, c'est ce qu'on a fait. En fait, ça commençait la boîte dont on a tourné le clip. C'est la même boîte qui faisait Dimo Borgir, Kaamelott et tout.
Oui, Serge. Oui.
Voilà. Donc, quand on a abordé le scénario du clip, on a discuté entre moi et Kevin. On a peaufiné, on a fait, disons, 90% du tout le scénario. On a en parlé avec le producteur,
Daiko Team.
Oui, Daiko Team. Et après, il a dit, oulala, ça va être chaud.
Enfin, surtout qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de choses sur fond vert.
Tout est sur fond vert.
Enfin, voilà, il y a beaucoup de scènes où on voit les musiciens dans le désert, enfin, avec différents éléments. Tout ça, c'est pas mal de post-prod.
Ils sont vrais. Il y a des éléments qui sont vrais, il n'y a pas tout.
Les danseuses, les figurants, je
voilà,
sais pas
si c'est ça. Voilà, le sable et tout. Donc, il faut imaginer dans un studio couvert de sable, comment le ramener, comment le faire sortir. Ça va être chaud. Il y a aussi les mecs qui ont fait la 3D, donc il y en a qui ont bossé sur Game of Thrones.
Donc, d'accord.
Voilà.
Et donc ce type de produit-là, ça reste, sans donner de chiffres ou d'éléments, ça reste accessible pour un groupe respectable, mais qui n'est pas non plus Ozzy Osbourne.
Ça reste cher.
Mais c'est un investissement. C'est un risque calculé.
C'est
quoi,
comme le loto. Voilà. Toi, tu vas dire, je vais tout miser. Après, nous, nous étions confiants. Voilà. Donc, on avait quelque chose qui nous dit à l'intérieur.
Bon, il y avait une stratégie derrière. Mais c'est vrai que c'est un petit peu une loterie. Pour un clip comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, sans rentrer dans les détails.
Et avec le 1 million de vues et ça continue, vous pouvez à l'instant, maintenant, déjà dire si un retour sur investissement a été fait.
Mais il y en aura un, forcément, parce que ça a évité de payer de la publicité. Des albums vont être vendus grâce à ce clip. Donc l'idée, c'est de rentrer dans nos frais, effectivement.
Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a fait la campagne crowdfunding. Mmh. C'est le public qui a financé. Et on a demandé 10 000 euros et on a eu 12 000.
Ouais.
Donc ça, c'est sympa. Une partie.
Oui, mais
partie.
Voilà. D'accord. Okay, bah, sur place, c'est pas. Pour en avoir discuté avec différents artistes, il y a deux options. Pour certains, bon, c'est une obligation, donc outil, donc ils le font, mais c'est refaire des dizaines, voire plus de fois la même chose. On arrive à prendre du plaisir ou c'est vraiment un peu plus. C'est éprouvant comme exercice.
En fait, la différence entre nous et d'autres groupes, c'est que dans Miras, on a une partie où on improvise. Ça veut dire on garde sûrement les mêmes chansons et tout, mais on rajoute quelque chose. Ça veut dire chaque concert, il a son propre charme. Voilà, donc par rapport à moi, ou par exemple moi, Morgan, peu importe, même Zahir, on a la possibilité d'improviser.
D'accord.
Donc on essaye, ça tourne, c'est très naturel.
Je pense que ce que tu voulais, enfin, de ce que j'ai compris,
oui.
C'était, est-ce que c'était pas trop rébarbatif de faire toujours
voilà.
Les mêmes prises de vue en vidéo
que pour prendre, ce qu'on prend, ce qui dure 10 secondes, vous l'avez peut-être fait 250 fois.
Ah, oui, mais avec le sourire.
Oui, voilà.
Tout le monde était super content.
Sauf que la 227e fois, on a du mal peut-être aussi être aussi enthousiaste que la 3e fois.
Non, tout le monde était à fond. Franchement, c'est... Ouais. Bah quand tu te retrouves dans un studio qui fait 400 mètres carrés, tout bleu, avec 3 tonnes de sable, déjà t'es dans le truc où tu te sens pousser des ailes. Donc tout le monde
et c'est combien de temps? C'est 2-3 jours? C'est plus? Ouais, 2-3 jours?
Uniquement pour le groupe, 3 jours. Ouais. Après,
post-prod, machin.
Post-prod, 2 mois de post-prod.
Et tout. Et figurant, parce qu'il y avait d'autres scènes avec hélicoptère et tout.
Oui, d'accord. Hein.
Ça demandait d'autres jours.
Donc finalement, quand vous avez reçu le produit final, vous-même, vous étiez un peu étonné, positivement, scotché pour pas dire autre chose, mais ça fait plaisir, enfin au moins dire
après avoir retouché ce qu'on avait besoin de retoucher, oui.
Il y a eu 6 versions.
Ah, il y a eu 6 versions. Ouais. C'est la première version reçue, il y a des trucs à modifier.
Ça c'est sûr.
Parce que ça allait pas.
Première version, tu dis bon, l'idée est là, top, c'est bon, on tient le bon bout. Par contre, ça c'est fake, ça c'est pas bon, ça c'est pas monté, ça c'est pas dans le temps, on aurait dû faire ça. Donc après, tu fais un cahier de doléances.
Ouais, c'est ça.
Machin, et t'as des allers-retours, il y a eu 5-6 allers-retours et la 6ème version était validée.
D'accord. Tant qu'on y arrive. Voilà, donc c'est un process en tout qui dure, voilà. 2-3 mois ou
plus
même 6-6 ouais, mois
3-4 mois, ouais, 3-4 mois.
Sachant qu'il y a 13 personnes dans la pré-prod.
Oui, donc c'est ça.
À
ouais.
Chaque fois que si on a un détail à modifier, tac, il envoie sur le ordi.
Il y a une suite prévue en termes de clip? Vous avez envie de faire quelque chose d'autre?
Alors pour cet album là il y aura un clip lyrics pour que les gens puissent voir, et puis au fur et à mesure on mettra tous les morceaux sur YouTube avec les lyrics pour que les gens puissent les chanter.
D'accord.
Pour le prochain album, c'est pareil, c'est soit il n'y aura pas de clip, soit il y aura quelque chose de mieux que le clip qu'on a déjà proposé. Donc on n'a pas encore l'idée, mais en tout cas il nous faudra une idée
costaud, forte.
Une idée costaud.
Il ne faut pas stagner chez nous.
Voilà. Donc t'en as parlé. Donc l'album semble contenir pas mal de symboliques, donc le nom Legacy qui est en anglais la traduction du nom du groupe en arabe. Le symbole Ramsa,
c'est la main de Fatma.
Voilà. Je sais pas si le rapport, mais d'habitude ça veut dire 5, donc là je sais pas si c'est lié au groupe ou c'était pas le 5e album, donc voilà. Enfin, quelle est un peu la symbolique, et en plus quelque chose de très simple,
oui.
Blanc, enfin voilà, c'est pas chargé, il y a une volonté clairement de pureté, simplicité, je sais pas comment faut le prendre. Voilà, quelle était l'idée derrière le visuel?
Fallait rappeler que la pochette elle a été faite par Perez Fuentes, mm-hmm. Donc elle était avec nous dès le départ. Concernant la Mat Fatma, et on peut l'interpréter à plusieurs façons. Donc, puisque il y a 5, il y a le M aussi, on peut dire il y a 6 membres aussi. Les branches d'olivier, ça représente aussi la paix.
Mm-hmm.
Il y a, sachant que la Mat Fatma, ça vient de comment ça s'appelle, de la culture juive nord-africaine. Et il y a aussi, si on peut regarder ici, le drapeau de la Tunisie.
J'avais pas vu ça.
Voilà.
Il y a un message en devinette que c'était voilà. Des détails, mais.
Donc il y a plusieurs détails.
D'accord.
C'est juste pour dire, Legacy, c'est un message, voilà, donc on peut dire que c'est un message de paix. Il représente aussi notre culture, la Tunisie, puisqu'on est un pays très ouvert à l'Occident, et on peut dire que nous sommes la portail qui ouvre vers l'Occident. La plus proche de l'Occident, et voilà, c'est assez simple et c'est représentatif. C'est ce qui fait de Miras un groupe voilà, tunisien, mais aussi franco-tunisien aussi. Mm-hmm. Voilà.
Et donc, justement, comment c'est fait là? Alors, Perrine Perez Fuentes, moi je l'avais connue parce qu'elle a bossé sur Adagio aussi. Je crois qu'elle a fait en gras, enfin, elle a travaillé pour différents groupes. Moi, bon, enfin, voilà. Elle n'avait pas travaillé sur Tales.
C'est un dessin. Qu'est-ce qu'elle... Non, c'était Bader.
Sur la...
Mais sur le... Non, c'est sur le livret, pardon. Voilà, qu'elle avait
oui, travaillé. C'était Bader qui Clélie.
Oui, exactement, voilà. Qui avait fait la pochette et Perrine qui avait fait le livret.
D'accord. Voilà. Et là, donc c'est elle qui a tout fait.
Ouais. C'est elle qui a tout fait. Ouais.
Et donc, ça a été quoi? C'est elle qui est venue en proposition? C'est un échange avec le groupe? Vous donnez un cahier des charges? Comment ça se passe?
C'était un échange, on en parlait à trois, moi, elle et Kevin. Et on voulait ramener une touche féminine en fait, délicate, beaucoup plus délicate qu'avant. Et vu que voilà, donc Perrine, elle a contribué, donc elle a fait la pochette, le livret, les paroles, mais aussi elle a fait les chœurs. Donc on a une artiste avec nous, du coup, voilà.
D'accord. Donc une petite dernière question, puis après on a un petit quiz juste pour connaître mieux les goûts de l'artiste. Donc la dernière question c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général de la scène métal tunisienne?
La scène métal tunisienne.
Qui est très peu connue de notre point de vue, donc il y a Miras qui émerge, mais surtout il y a peut-être d'autres groupes qui poussent derrière vous.
Oui.
Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
D'accord, il faut savoir en Tunisie, donc, il y a pas mal de talents, il y a pas mal de musiciens et de groupes qui on va vraiment du lourd, mais sauf que le problème, il n'y a pas eu un support de la part de notre gouvernement.
Il n'y a aucune structure pays.
Aucune structure, ni maison de disque, ni subvention, ni rien. On a eu la chance d'avoir Kevin.
Donc vous, pour vous développer, il fallait que vous sortiez du pays. Enfin, pas du sortier, mais que vous puissiez utiliser des structures à l'étranger.
Oui, ça c'est sûr.
C'est ce qui s'est passé.
C'est obligatoire, la monnaie n'est même pas convertible, tu peux rien faire en fait.
Oui, ça aide pas, oui.
Il y a récemment un groupe, deux groupes, qui viennent tout juste de sortir leur album. Ils essayent un tout petit peu de faire leur max. Le premier qui s'appelle Nawather, un groupe tunisien, donc un metal symphonique avec du growl et tout. Il y a un deuxième qui s'appelle Persona, donc pareil, c'est du symphonique. Et franchement, on voit du lourd. Ils font de leur maximum. On essaye aussi de faire la promotion et passer le mot. So, pour vous dire qu'il n'y a pas que Miraz, il y a d'autres groupes, mais il faut les suivre aussi. Voilà.
D'accord. C'est l'occasion de propos de que. Au moins sur ces deux noms-là, on a cherché, ils sont sur le fond d'une une page Facebook, de moyens d'écouter et de savoir un peu commencer à se faire connaître. Donc on a un petit quiz pour mieux vous connaître sur vos goûts et en général. Petite question sans prétention. Chanson ou album à prendre sur une île déserte. Donc vous allez vous tanker quelques décennies.
Je pense moi un album des Floyd, mais je sais pas lequel encore.
D'accord. Plutôt les derniers ou les premiers ou.
Non, les premiers, enfin 70.
The Wall ou.
The Wall, il est sorti en quelle année? Il est sorti en.
Début 80, j'aurais dit.
Je dirais période fin 70, début 80.
D'accord. Ok, et toi?
Je tâte entre trois albums. Je serais pas prétentieux, mais Legacy, parce que ça a une valeur émotionnelle pour moi.
Non, pas de soucis.
Soit le Underworld de Adagio ou le Five de Sinfo.
D'accord, bien entouré. Voilà. Chanson de votre répertoire ou de ton répertoire que tu aimes le moins?
Que j'aime le moins.
A posteriori, est-ce qu'il y a un titre qui parle un peu moins à votre cœur, quoi?
Non. On en parle avec tout le monde.
Il n'y a pas un titre que vous voulez pas absolument pas jouer sur scène, qui vous saoule tout complètement, non?
Non, pas du tout. Pour moi, non.
Les titres, on y apporte une attention particulière à chaque fois qu'on va composer un titre, donc il n'y a pas de
donc
raison.
Il n'y a rien
qui est bâclé en fait.
Voilà. Et qui est imposé aussi.
D'accord. Premier album rock acheté. Vous vous souvenez?
Rock, ouais, moi c'était Holy Land, alors c'est du métal puisque c'est en gras. Ouais. Mais mon premier album acheté, j'avais 16 ans, c'était Holy Land.
Holy Land.
C'était dur, j'étais en Tunisie, on n'a pas des albums, du coup, je m'excuse, on a dû télécharger illégalement. Mais après, je l'ai acheté.
C'était
le premier, en fait, Sivai. Je me rappelle.
D'accord. Ouais. Le dernier album qui vous a acheté ou celui qui vous a accroché l'oreille?
Dans le métal?
Ou pas?
Dans le métal, aucun. Par contre, le dernier album qui m'a vraiment marqué, c'est le dernier Tia.
D'accord.
Dernier, c'est In This Moment.
Ok. Aucun parce que tu fais attention en tant que prod de s'en sortir de ce qui pour éviter de sonner comme X ou Y, ou parce qu'il n'y a rien qui est
exactement.
De qualité.
Non, pas du tout. C'est que pour essayer de proposer des choses toujours différentes et un peu disruptives dans le monde du métal, vaut mieux se puiser les influences ailleurs. Et puis il y a tellement de belles musiques partout ailleurs, pourquoi forcément se cantonner au métal?
Tu te rattraperas pour la retraite. Chanson que vous auriez adoré avoir composée.
Show Must Go On de Queen.
Mm-hmm. Ouais, t'as touché dans le mille. Ouais.
D'accord. Et il en reste trois, et après je vous embête plus. Vous avez le choix d'un guest, d'un invité mort ou vivant sur le prochain disque.
Mort
prenez
ou
qui?
Ouais. Dio.
Dio.
Je sais pas. Il y en aurait plusieurs. Il y en aurait plus. Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas, peut-être Russell Allen, j'y avais pensé. Parce que c'est un chanteur qui est.
Faut lui demander, il est pas loin.
J'y ai pensé plus jeune. Ouais.
D'accord. Et enfin, terminé, si ça n'a pas déjà été fait, vous avez les moyens de jouer n'importe où dans le monde, n'importe quelle salle, n'importe quel lieu, enfin la ville, vous choisissez lequel?
Refaire Carthage,
d'accord.
Peut-être Rock in Rio.
Rock in Rio, d'accord. Bah parfait, merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
Merci à toi.
À bientôt.
Merci.